Dans les années 800, un moine, un jour, a écrit un poème en latin. Au XIIe siècle, ce poème a été mis en musique. Il a été chanté à l'époque de Noël. Dans les années 1800, un prêtre anglican l'a traduit en anglais. Et plus tard, il a finalement été traduit en français, alors que c'était probablement un moine français qui l'avait écrit en latin à l'origine. Et à cause de cette traduction en anglais, ce chant est devenu un classique de Noël. On le chante encore aujourd'hui, si bien que ce chant de Noël est probablement le plus ancien chant de Noël que nous chantions encore aujourd'hui. « Ô viens Emmanuel ». C'est un vieux chant, et pourtant je suis impressionné parce que quand je pense à l'époque où il a été écrit, ce poème en latin, on n'avait pas accès aux écritures comme on l'a aujourd'hui. Les écritures étaient difficiles à trouver. D'ailleurs, beaucoup de gens ne savaient ni lire, ni écrire. Et pourtant, cet homme-là, qui a fait ce poème en 7 couplets, a mis dans chacun de ses couplets un des titres de Jésus qu'on trouve dans les Écritures, et qui souvent fait référence à un passage de l'Apocalypse. Cet homme était vraiment versé dans les Écritures. Il connaissait la parole de Dieu. Et il y a dans ce chant plusieurs qualificatifs de Jésus qui permettent de dresser une image de ce qu'est Jésus. Et dans cette période de Noël, j'aimerais avec vous reprendre ce poème qui nous conduit directement à Jésus. J'aimerais qu'on en chante 2 strophes ce matin en français. Vous allez voir que les paroles en français sont parfois difficiles à mettre sur la musique. C'est une musique grégorienne du XIIe siècle. Mais on va essayer de chanter les 2 premières strophes, si vous voulez bien. Et puis je vous donnerai ensuite les traductions littérales de ce poème en latin. Vous allez voir que la traduction française s'en est éloignée un petit peu, de manière à ce que ça puisse rimer à la fin. Alors on va chanter les 2 premières strophes, si vous voulez bien. Chanter un de ces vieux chants, probablement le plus ancien qui nous reste, depuis les années 800. Le premier couplet littéralement dit ceci: « ô viens Emmanuel, et paie la rançon d'Israël, qui se désole dans l'exil, attendant la venue du Fils de Dieu. » C'est la traduction du premier verset qui présente Jésus comme « Emmanuel ». Et le refrain, en fait, est une promesse. Réjouis-toi, Emmanuel vient. Emmanuel est né pour toi, Israël. Une promesse dans le refrain qui est répétée entre chaque couplet, qui présente Jésus dans un aspect différent de sa mission et de ce qu'il doit être pour chacun d'entre nous. Emmanuel. Alors évidemment, nous connaissons ce texte par le passage du Nouveau Testament, mais c'est une référence à Ésaïe, chapitre 7, où il est question d'une histoire troublée d'Israël, où le roi de Juda est attaqué par le roi de Syrie et le roi d'Israël. Il court vers Dieu, demande l'aide de Dieu, et Dieu va lui répondre en lui donnant une promesse incroyable. Et tout aussi incroyable qu'est la promesse que Dieu lui donne, tout aussi incroyable est la promesse de délivrance qui lui est assurée. Et cette promesse, nous l'avons dans Ésaïe au chapitre 7, verset 14. Il est dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et dans le Nouveau Testament, Matthieu veut préciser ce que veut dire Emmanuel. Matthieu va écrire son texte 700 ans après Ésaïe. Et il va dire, vous connaissez ce texte de Matthieu chapitre 1, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Et dans ce texte, l'auteur parle d'Israël qui est en exil, pas chez lui, pas à la maison, esclave. Et cet Emmanuel qui vient avec nous est destiné à nous libérer de l'exil, à nous libérer de l'esclavage. Paie la rançon, libère-nous autrement dit. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle de cette libération. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 1, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Et dans le même chapitre, un peu plus loin, il dit « Mais maintenant, au verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » L'Emmanuel, c'est celui qui va nous chercher en exil, qui paie la rançon et qui nous ramène à la maison. C'est ce que ce premier verset est en train de dire. Alors c'est ma prière aujourd'hui. Viens Emmanuel et délivre-nous de l'esclavage du péché. Et vous avez tous, comme moi, fait l'expérience de constater à quel point il nous a tous agrippés, ce péché. Emmanuel ne le fait pas avec une télécommande, zip, zip. Il ne le fait pas à distance. Il ne le fait pas par Internet ni par rien d'autre. Il va venir en personne, parmi nous, pour nous délivrer du péché et nous en sortir. Viens, Emmanuel. La deuxième strophe de ce cantique de Noël dit ceci. Ô sagesse sortie de la bouche du Très-Haut, qui dispose de toutes choses, venez nous enseigner le chemin de la prudence, de la sagesse et de la gloire. Cette fois-ci, Jésus est présenté comme la sagesse qui sort de la bouche du Très-Haut. Jean commence son évangile en parlant de la parole vivante qui sort de la bouche de Dieu. Sagesse. Dans le livre du prophète Ésaïe, encore au chapitre 11, Ésaïe va qualifier ce Rédempteur qui doit venir d'une façon curieuse. Chapitre 11, au verset 2, il dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » On ne peut pas s'empêcher, en lisant ce texte, de penser au texte de l'Apocalypse, au chapitre 4, qui parle des sept esprits de Dieu. Et vous avez ici cette manifestation de l'Esprit de Dieu en sept étapes. Jésus, la parole de Dieu, la sagesse, S majuscule. Cette sagesse d'ailleurs qui apparaît comme une folie pour les êtres humains. Une pure folie, mais c'est la sagesse de Dieu. Et cette sagesse de Dieu, elle est curieuse parce qu'elle est constamment paradoxale. Elle est révélation d'un côté et puis elle est mystère de l'autre. Regardez ce texte par exemple, dans Colossiens chapitre 2 au verset 3, il est question de Jésus, le Christ. Et l'apôtre Paul dit, « Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Jésus, révélation, parole de Dieu, mais en même temps, mystère. Mystère de la sagesse et de la connaissance totale de Dieu. Alors cette sagesse, on apprend dans le Nouveau Testament que si on ne l'a pas, il faut la demander. Cette sagesse, quand on la demande, tout d'un coup, ça prend plusieurs dimensions. Parce que quand on demande à cette sagesse de venir, le Nouveau Testament nous dit dans l'Épître de Jacques, si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu, il vous donnera volontiers et en abondance. Mais aujourd'hui, si je demande à cette sagesse de venir, je demande en réalité à Jésus de venir dans ce monde et de nous révéler la parole de Dieu. L'Épître aux Romains se termine avec cette phrase, « À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. » Amen. Vous vous souvenez, quand Jésus était sur la terre, beaucoup de gens, ses disciples compris, l'ont appelé « Rabbi ». Mais « Rabbi », ça veut dire quoi ? Ça veut dire « maître », mais dans le sens « celui qui enseigne ». Et les gens, lorsqu'ils entendaient Jésus, étaient, nous dit le texte, frappés de son enseignement. Alors quand je dis « ô sagesse, viens », je suis en train de demander au Christ, le maître, la parole, de venir et de me donner cette sagesse d'en haut. Que cette sagesse d'en haut qui est mystère, que le monde ne comprend pas et prend pour une folie, que cette sagesse soit vraiment en moi et que je puisse aussi être un porteur de la parole. Oh, venez nous enseigner le chemin de la prudence, de la sagesse et de la gloire. La troisième strophe de ce cantique dit ceci. Oh, viens, viens Adonai, toi qui sur les hauteurs du Sinaï donna au peuple ses lois dans la majesté de sa gloire. Un autre nom pour Jésus, Adonai. Adonai qui veut dire Seigneur, et qui est employé pour ne pas utiliser le nom sacré de Dieu, les quatre lettres du nom sacré de Dieu, qu'on n'ose même pas prononcer, pour ne pas prononcer en vain le nom de Dieu, on va dire le Seigneur, Adonai. Dans notre Bible en français, le nom de Dieu, ces quatre lettres sacrées, sont traduites par l'Éternel. Une très belle traduction de ce que signifie le nom même de Dieu, l'existence par définition. Alors je repense à ce passage du livre de l'Exode, au chapitre 19, en référence avec ce qui s'est passé au pied du mont Sinaï. Il est dit au verset 19, « Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel parla à Moïse sur le sommet de la montagne. » L'Éternel. Jésus, dans ce texte, est présenté comme Adonai, celui dont on n'ose même pas prononcer le nom et qui était sur le Sinaï, qui est venu donner ses lois. Autrement dit, celui à qui l'on dit « viens », c'est en fait le même qui était là-haut, sur la montagne, à donner ses lois à Moïse pour son peuple. C'est dire à quel point l'auteur de ce poème avait déjà clairement, clairement à l'esprit que Jésus est pleinement Dieu à part entière et sans aucune hésitation. D'ailleurs, le prophète Ésaïe le dit clairement. Ésaïe chapitre 9, vous connaissez ce passage. En parlant du Messie qui doit venir, il est dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Si Jésus n'est pas pleinement Dieu dans ses appellations, qui est-il alors? Ce Adonai, que ce poème invite à venir, vient comme porteur de cette loi. Mais ce n'est pas simplement une loi qui nous jette à la figure, c'est une loi qu'il est lui-même parce qu'il est venu comme étant le vécu de cette loi qu'il avait donnée si longtemps avant. Et c'est pourquoi le psalmiste dans le psaume 40 dit ceci, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Ta loi est au fond de mon cœur. » Cette loi était non seulement dans le fond du cœur de Jésus, mais c'était toute sa vie, qu'il a montré comme l'expression même de ce qu'est la loi de Dieu vécue aujourd'hui. Et combien nous nous sentons loin de cette image-là. D'où cette prière, « Viens, Adonai, fais-nous voir cette loi et qu'elle soit en nous. » La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire,
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, Adonai. La quatrième strophe de ce cantique dit exactement ceci. Ô viens toi, rameau de Jessé, délivre-toi de la tyrannie de Satan, sauve ton peuple des profondeurs de l'enfer et donne-lui la victoire par-delà le tombeau. Cette fois-ci, Jésus est présenté comme le rameau de Jessé ou de Isaïe, suivant la traduction que vous avez. Ce texte vient encore une fois du prophète Isaïe au chapitre 11. Au verset 1er, il est dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Vous vous souvenez, Isaïe, Jessé, c'est le père de David. Et qui va être roi dans la famille? Le grand, l'aîné, le costaud? Non, le petit berger qu'on a expédié dans les champs parce qu'il ne compte pas, lui. Le petit de rien du tout. C'est lui qui va devenir le roi. Rameau de Jessé, le fragile. Et encore une fois, dans le prophète Ésaïe, Jésus est décrit de cette manière-là. Dans le chapitre 53, il est dit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Est-ce que vous voyez l'image ici? Laissez-moi traduire cette image en français moderne. « Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » Vous avez déjà vu le goudron de la route, sur le bord, tout d'un coup, une petite plante passe à travers. Elle a réussi, cette petite plante, de rien du tout, à casser le béton de la route. Si vous l'attrapez avec la main, vous pouvez en arracher les feuilles. C'est l'image qui est ici, l'image de Jésus. Faible plante, un rien du tout, le dernier des derniers. Et pourtant, ce texte dit « Délivre-toi de la tyrannie de Satan ». C'est un appel, un encouragement à ce que sa victoire, il la remporte et sauve ton peuple des profondeurs de l'enfer. Donne-nous la victoire sur le tombeau. Combien il est important pour nous que le rameau de Jessé se délivre de la tyrannie de Satan pour que cette victoire, il puisse me la donner à moi, parce que moi, je ne l'aurai pas sinon. Finalement, ce rameau de Jessé, c'est le faible Jésus. Faible et tout-puissant en même temps. Que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Vous vous souvenez, l'apôtre Paul avait ce qu'il appelle une écharde dans sa chair, une maladie qui l'empêchait de faire ce qu'il avait à faire. Et Dieu lui répond. Et il entend la réponse de Dieu qui est « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est ce que Jésus nous a donné comme exemple. Dans sa grande faiblesse au désert, vous vous en souvenez? Il a montré là une force dont je suis moi incapable. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et dans l'Apocalypse, dans la dernière page du livre de l'Apocalypse, dans le dernier chapitre, Jésus parle à Jean, et lui dit, « Moi, Jésus, je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Alors viens, rameau de Jessé. Cette victoire que tu vas acquérir, s'il te plaît, donne-la moi aussi. La cinquième strophe de ce chant dit ceci. « Ô viens, toi, clé de David, viens et ouvre en grand notre maison dans le ciel. Rends sûr le chemin qui y conduit et barre le sentier de la misère. » Vous voyez combien la strophe précédente préparait celle-ci avec le rameau de Jessé. Maintenant, on va parler de Jésus, la clé de David. Cette expression fait référence à un texte qui est dans Ésaïe au chapitre 22, où il y avait deux gouverneurs, un bon et un mauvais. Le mauvais, qui s'appelait Shebna, s'était enorgueilli et Dieu avait décidé de le mettre de côté pour le remplacer par un vrai gouverneur. Et lorsque Dieu le remplace, il va mettre à sa place un gouverneur qui va s'appeler Éliakim. Mais que veut dire Éliakim? Éliakim veut dire « Dieu élève ». Et tout d'un coup, je pense à ce texte de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, où il est question de Jésus. Il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est lui que Dieu a souverainement élevé. Cet Éliakim, finalement, est une image de la clé de la vide. D'ailleurs, dans ce texte, il est dit au verset chapitre 22, verset 22 d'Ésaïe, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je mettrai sur son épaule la clé. » La clé, c'est un pouvoir. C'est une autorité. C'est un signe qui montre que tout ce que cette clé peut ouvrir est à ma disposition. Et vous vous souvenez, dans le même livre du prophète Ésaïe, il emploie une expression qui va nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que cette clé soit placée sur son épaule. Ésaïe chapitre 9, verset 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, donnée à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. » C'est lui le roi, c'est lui qui domine, c'est lui qui a la clé qui ouvre et personne ne peut fermer. Vous entendez en cela ce texte de l'Apocalypse, chapitre 3, où il est dit, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Celui qui a la clé de David, c'est celui qui, en fait, a la clé du royaume des cieux et qui m'invite à y venir. Parce qu'il me dit, si j'ouvre pour toi le royaume des cieux, personne ne pourra le fermer. Mais si tu n'en veux pas de ce royaume des cieux, il te sera fermé pour toujours. Alors je dis, Seigneur, ouvre-moi ce royaume des cieux. Ouvre pour moi la vie éternelle, le salut, le pardon. Ouvre ces portes pour moi. Et je réalise que celui qui a la clé a à sa disposition tout ce dont j'ai besoin entre maintenant et son prochain retour. Il en a la clé et il va me le donner au moment voulu. Ou peut-être pas quand je vais le demander, mais au moment voulu. Il ouvrira pour que je reçoive cette bénédiction qu'il a en réserve pour moi. Alors, je prie encore aujourd'hui. Ô viens, toi, clé de David, ouvre-moi le royaume des cieux par le chemin de la misère de ce monde. Conduis-moi jusque-là. Ouvre la porte pour moi. Ouvre-la bien grande que je puisse y entrer avec tous ceux que tu m'as donnés. La sixième strophe de ce cantique dit ceci. Ô viens, toi, première lueur du jour, viens et réconforte notre esprit de ton avènement. Disperse les sombres nuages de la nuit et chasse les ombres de la mort. Jésus, la première lueur du jour. Vous vous souvenez, Jésus disait, je suis la lumière du monde. L'image est très belle, vous avez déjà vu le lever du soleil, où le soleil vient et finalement chasse les ténèbres partout et la lumière grandit, grandit, grandit. Dans ce message prophétique que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a délivré et qui est dans les Écritures, dans l'évangile de Luc au chapitre 1, il dit au verset 78, « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu et en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Un passage qui reprend exactement le même thème. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Jésus, la lumière du monde. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9, se trouve le texte d'où celui-ci est extrait. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Première lueur du jour. Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, Jésus disait, « Je suis l'étoile du matin. » C'est un peu comme si ce texte appelait Jésus et lui dit, « S'il te plaît, dis tout fort que la lumière soit. Allume la lumière, Seigneur, dans notre monde de ténèbres. » Et il nous a promis d'allumer cette lumière pour toujours. Parce que lorsque vous lisez dans l'Apocalypse ce qui est décrit de la nouvelle Jérusalem, il est dit, la ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. L'apôtre Paul nous dit, autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Il ne dit pas, vous êtes dans la lumière. Vous, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. C'est ce qui est le plus difficile pour nous, de marcher comme des enfants de lumière. Cette image est extraordinaire parce que c'est une image dynamique d'espoir. Première lueur du jour. Mais vous attendez quoi? Proverbe 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Cet appel à la première lueur du jour, c'est la promesse que ce soleil va se lever, qu'il va éclairer jusqu'à son zénith et nous donner sa pleine lumière. J'attends que ce midi vienne et que cette lumière soit pleine et totale. Nous sommes ici dans la sixième strophe, et vous entendez déjà qu'il prépare ce qu'il a à dire, l'auteur, pour la dernière strophe. La dernière dit ceci. Viens, ô viens, toi, Seigneur des nations, viens, Rédempteur de l'humanité, pour sauver tes serviteurs conscients de leurs péchés. Dans une autre version du même poème, il est dit, viens, ô viens, toi, désiré des nations. Et là, on entend le texte de Agée, chapitre 2, qui est en rapport avec la première venue de Jésus, mais aussi en rapport avec la deuxième, le désiré des nations. Dans l'Apocalypse, au chapitre 19, il nous est dit qui est ce Seigneur des nations. Le mot qui est employé est en réalité exactement le mot roi dans le texte original. Alors écoutez ce texte d'Apocalypse 19, il correspond à ce que nous avons sous les yeux. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » On entend presque déjà résonner à nos oreilles l'Alléluia de Handel, « King of Kings » and Lord of Lords. C'est exactement ce texte qui a inspiré Handel pour faire cet Alléluia. Un Alléluia d'ailleurs que l'on chante volontiers à Noël. Mais quand donc est-ce que ce roi des rois et seigneur des seigneurs va se manifester? Il ne s'est pas manifesté lors de la première venue de Jésus, il va se manifester lors de la deuxième venue de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle cette dernière strophe est une ouverture extraordinaire sur la deuxième venue de Jésus. On appelle ce Jésus Emmanuel, Adonai, Rameau de Jessé, Clé de David, Sagesse. On l'appelle pour qu'il vienne maintenant. Mais ici, on l'appelle pour qu'il revienne à la fin des temps. Et dans le psaume 24 se trouve ce passage qui traduit la gloire de Christ qui revient avec les élus. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Ce plus vieux cantique que nous ayons entre les mains, cantique de Noël, trace le portrait de Jésus d'une façon admirable, dans sa première venue et dans sa deuxième. Et aujourd'hui, si nous pouvons nous aussi appeler le Seigneur et présenter à lui ses paroles comme notre prière, alors nous serons prêts. Non seulement pour le recevoir comme notre Sauveur, mais le recevoir aussi comme notre Seigneur.